quatre mystères qui accompagnent la construction du temple de Dieu. Ou alors quatre secrets qui accompagnent le peuple qui décide de construire pour Dieu. Chacun ou nombreux d'entre nous ont déjà eu à entreprendre une construction. Et soyez-en sûrs, il n'y a pas de mystère qui accompagne nos maisons que nous construisons. Mais il y a des mystères, de secrets, de choses extraordinaire qui accompagne le peuple qui décide de construire pour Dieu. C'est de la grandeur. Alléluia. Amen. Le premier jour, nous avons introduit notre message en disant que le miracle que nous pouvons vivre dans la maison de Dieu dépend du degré de compréhension que nous avons de la parole de Dieu. Nous avons pris l'exemple de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Cette femme-là se trouve sur le chemin de Jésus, alors que Jésus est sur le chemin vers la maison d'un homme qu'on appelle Jairus, un homme connu dans la synagogue, connu dans la classe sacerdotale, et dont la fille est en train de mourir. Il a fait une invitation solennelle à Jésus, et Jésus a accepté. Jésus a fait d'aller délivrer cette fille qui a perdu le sang pendant 12 ans, disons, qui a l'âge de 12 ans. Et pendant qu'il est en train de marcher, il y a une femme qui, elle, a perdu le sang pendant 12 ans. L'âge de la maladie de cette femme était l'âge de la fille qui devait aller délivrer. Et la femme choisit de toucher Jésus. Jésus ne le sait pas. Les apôtres ne le savent pas. Jésus ne voit pas cette femme-là. Mais cette femme a une compréhension de la parole de Dieu. Elle a une compréhension supérieure de qui est Jésus. Elle se dit à soi-même, par rapport à cette compréhension, elle dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Nombreux de ceux qui étaient dans la foule savaient que si Jésus le touche, ils seront guéris. Nombreux savaient que si Jésus arrive chez moi et prie pour les malades, mon malade sera guéri. Nombreux savaient que si Jésus me reçoit en entretien pastoral, j'aurai la solution. Alléluia. Mais la femme a tout oublié. Elle est montée dans la compréhension. Elle dit, je n'ai pas besoin de l'attention de Jésus pour avoir le miracle. Elle touche Jésus sans qu'il le sache et elle est guérie. Écoutez la réponse de Pierre. Jésus dit, quelqu'un m'a touché, une force m'a quitté. Pierre dit non. Moi-même, je suis en train de te toucher. Nous sommes dans la foule. Tu es un homme de foule, tu marches. Le genre te touche. Mais justement, ces gens me touchent sans aucune compréhension, sans aucun sentiment, sans aucun but. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché de manière objective. Il y a quelqu'un qui m'a touché en sachant ce qu'il peut récupérer. Et il a récupéré quelque chose de moi. Et c'est là que nous avons dit que vous pouvez être dans l'église en train de frotter Jésus. Demande à celui qui est à côté de toi, tu es frotteur ou tu es en train de...
Il y a beaucoup qui sont en train de frotter le Seigneur Jésus et ils n'ont pas eu de miracle. C'est comme les militaires qui ont crucifié Jésus. Quand ils ne crucifiaient pas avec le clou, vous pensez que le sang ne sortait pas? Certainement que le sang divin, le sang saint, pouvait même se jeter sur eux. Si toi, le sang de Jésus se jette sur toi, tu vas même manger ça. Le sang de Jésus. À ce moment-là, j'ai décidé de devenir cannibale. En tout cas, si ça se jette sur ma main, je vais lâcher ça. Mais ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas d'impact. Mais quelqu'un qui a touché a arrêté une hémorragie.
Votre force, votre victoire dans la foi ne dépend pas de l'âge que vous avez dans l'église.
Beaucoup de gens se cachent derrière l'ancienneté dans l'église, derrière l'âge de leur salut. Bien aimé, vous pouvez avoir de l'âge dans la foi, mais ne pas avoir la compréhension. C'est pourquoi l'homme de Salomon dit, Seigneur, donne-moi la compréhension.
Parce que quand vous comprenez, vous allez vivre le miracle. Le miracle n'est pas dans la main du puissant serviteur. Ouais, l'homme de feu, l'homme puissant. L'onction est dans l'esprit de tout celui qui s'approche de Dieu.
Dieu te touchera à la mesure de ta compréhension. Tu vivras le miracle à la mesure de ta compréhension. Chaque verset, c'est une chaise. Et tu dois te décider de t'asseoir dedans. Sur cette terre, il y a des gens qui sont en train de vivre le miracle extraordinaire, selon leur foi. Et ils ont le verset biblique. Si vous prenez le verset qui dit, Jésus dit, je n'ai ni les nids comme les oiseaux. Moi, je n'ai même pas là où reposer la tête. Vous croyez à ces versets-là. Vous pouvez décider de ne pas croire à la guérison. Nous croyons aux médicaments. Nous croyons aussi aux miracles. Il y a des moments où Dieu peut utiliser le médicament. Il y a des moments où Dieu peut faire. Alors, ce que nous vivons dépend de ce que nous croyons. En tout cas, vous choisissez ce que vous croyez. Alléluia.
Amen.
Le deuxième jour, nous avons parlé du premier mystère que nous avons dit. Le mystère du trône générationnel. Là, nous sommes dans le livre de Samuel, chapitre 7. Dans ce chapitre, David entreprend de bâtir le temple. Il a construit une belle maison. Il a construit une maison fantastique à Cèdre. Lui-même, quand il s'assoit dans cette maison, quand il dort dans cette maison, il dit, est-ce que c'est moi, David? Moi, un enfant abandonné, un enfant méprisé de la famille. Comment se fait-il que je suis maintenant dans une maison à Cèdre? Et la reconnaissance monte dans son cœur. Il est reconnaissant à Dieu. Et il dit, je ne peux pas supporter que je sois dans cette beauté et laisser l'arche de Dieu dans une tente. À un moment donné, il avait comme honte d'aller chercher le Dieu qui lui donne tout dans une tente et aller jouir de tout dans un palais, l'emprisonner en serre. Il dit, je vais construire pour Dieu. Quand il a commencé cette entreprise de construire pour Dieu, il a appelé son père spirituel, le pasteur Nathan de cette époque, le prophète Nathan. Il lui dit, mon père, l'homme de Dieu, voici le projet que j'ai. Je ne trouve pas normal que je sois dans une très jolie maison et que Dieu soit dans une tente à bâche. Je ne le supporte pas. L'homme de Dieu dit, la pensée est bonne, je vais aller demander à Dieu. Et Dieu est étonné. Il dit, comment un homme peut réfléchir sur mon bien-être? Depuis tout ce temps, les gens viennent chez moi pour dire, donne-moi le mariage, après le mariage, donne-moi les enfants, donne l'intelligence à mes enfants, après l'intelligence, donne du travail à mes enfants. Nous sommes des demandeurs éternels. Le diable a réussi à prendre nos yeux, à les plaquer sur nos problèmes. Et nous oublions tout ce que Dieu a fait. Et c'est ça le rythme. C'est comme un élément qui est déjà dans la culture. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un moment où on doit se lever comme David et essayer de regarder derrière. Les offrandes deviennent comme un gène dans l'église parce que nous sommes ingrats. Et même quand les pasteurs disent, est-ce qu'on peut contribuer, on les regarde. Mais ils croient quoi? Hier, il y avait des coups de bas à la bénie. Le matin, on me donne déjà les bilans, plus de 11 morts. Attends, une nuit, pouf, les gens viennent de mourir sans programme. Je ne suis pas sûr que ce soit la volonté de Dieu ou comment. Mais ils viennent de disparaître. Et toi, tu es vivant. On te dit, bon frère Dieu, tu commences à expliquer, tu commences à regarder la veste du pasteur. Oh non, là, il était à vert, pétrole. Frère, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Tu ne peux pas un instant te rappeler des bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes sans Dieu? L'apôtre Paul dit, même quand nous étions pécheurs, il nous a aimés. Nous avons mangé la Sainte Cène en état dans les conflits. Dieu ne nous a pas frappés. Nous avons progressé dans notre travail sans que nous ayons le mérite. Nous avons même été dans l'impudicité, nous n'avons pas eu le sida. Vous pouvez adorer Dieu pour vos péchés qu'il n'a pas puni. Si vous ne voulez pas donner la vie même pour ni un message bien, donnez ça même pour les grâces qui sont passées inaperçues. Vous avez volé, on ne vous a pas attrapé. Même bénissez Dieu même pour ça. Vous avez été infidèle, mais vous paraissez comme les saints même du quartier. Vous pouvez même offrir à Dieu. Il vous lui dit, fiche. Alléluia.
Amen.
Si le peuple est incapable de te convaincre que Dieu veut que nous puissions lui offrir, nous pouvons manquer de versets. Mais tu peux trouver des raisons dans ta vie de louer Dieu. C'est ce que David a fait. Il se souvient que ses grands frères n'acceptaient même pas son onction. Il se souvient que son père l'a oublié les jours de la consécration royale. Il se souvient que personne ne pouvait l'introduire. Ses frères étaient des vaillants dans l'armée. Quand il est en train de dire, moi je peux battre cet homme-là. Son grand frère dit, toi, Naki, boum. On a qu'à faire un coup de nous. Il y a un peu de mambouille, il y a un peu de quoi. Non, il y a un peu de quoi. qui alléluia.
David laisse son grand frère. Son grand frère était dans la réunion solennelle quand l'homme de Dieu est en train de dire je te vois roi d'Israël. Il était. Je ne sais pas si Daniel ne lui racontait même pas des petites histoires de la forêt. C'est-à-dire que ce grand frère ne l'aimait pas. Comment vous pouvez avoir un petit frère qui a déjà tué le lion, vous ne savez pas. Vous n'avez pas le CV de votre petit frère. Il veut dire au grand frère, il y a les tocs à couler Rounia. Et il vient de lui donner des fromages. Hein. David va vers quelqu'un d'autre et dit, mais moi je peux le relever ce défi. Moi je peux frapper de Goliath. Et c'est un étranger, celui qui n'est pas, qui n'a pas été au jour de la consécration. C'est lui qui ne connaît pas David. Qui dit, tu as déjà tué des lions. Bon, moi je te crois. Je vais aller dire au roi. C'est lui qui va dire à Saül, il y a un petit ici. Qui dit qu'il peut nous aider. Et Saül l'appelle et dit, mais qu'est-ce que, comment toi tu peux nous aider? Moi, je suis mince, mais je pèse. J'ai tué les lions, j'ai tué l'ours. D'ailleurs, il ne le dit pas qu'il alla tuer une fois. Si vous lisez cette écriture-là, il dit ceci. Quand les lions venaient, quand l'ours venait, il n'a pas dit j'avais tué un lion. Il dit, toutes les fois que les lions venaient, j'ai tué. Toutes les fois que l'ours venait, j'ai tué. Mais le grand frère ne le connaît pas. Je suis en train de parler aujourd'hui à quelqu'un. Une victoire n'a jamais été enregistrée. Tu travailles dans un bureau, bien, c'est toi qui fais les rapports. Mais quand il faut recevoir les bailleurs, on ne t'invite même pas. Je te dis qu'il y a une grâce de la récupération. Je peux te récupérer et te présenter le Dieu de la présentation. Oh! Après ça, quand on passe, il y a bien. Donc, tu es au carré, il te donne la passe, il dit ça. Et le gardien est déjà parti, là, tu as un coup. Tu peux même aller avec la balle doucement là. Tu entres avec la balle dans le but. C'est ce que Dieu va faire avec quelqu'un. J'ai dit c'est ce que Dieu va faire avec quelqu'un qui est oublié, qui est abandonné. Je vais dire à quelqu'un, ne t'en fais pas. Même si ceux qui sont censés connaître ton parcours ne te donnent pas l'opportunité d'exprimer tes grâces, le Dieu à qui tu as cru te donnera un pasteur. Et je vais te dire l'interprétation de pourquoi ces gens ne t'aident pas. Je parle à quelqu'un, je parle comme un prophète. Je te dis pourquoi c'est ça, c'est arrivé. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se dit, mais ces gens savent, ils connaissent mes capacités, ils connaissent que je peux faire ça, mais ils ne m'aident pas. Dieu le veut comme ça pour que tu n'aies pas beaucoup de merci à dire aux gens. Tu vas dire merci à Dieu. Tu comprends ce que j'ai dit? Vous savez, si vous avez la malchance d'être supporté par plusieurs personnes, même à un moment donné, quand vous avez du travail, vous êtes malheureux. Tout le monde vous rappelle. Toi, Samuel, David, Nabesson. Mais il y a quelqu'un qui a cru en lui. Quelqu'un qui ne le connaît pas. Il vient nous dire, voilà, viens. Parle ce que tu m'as dit au roi. Il est produit. Et le roi le croit.
Je ne sais pas qui c'est devenu ce frère quand David vient avec la tête de Goliath entre les mains. Saül dit, de qui est-il fils?
On le déclare général de l'armée. Dieu va te donner la récupération. Ne t'en fais pas, ne coule pas. Si les autres sont en train de recevoir avant, attends le temps de Dieu. Il n'y a pas de retard pour Dieu. Il te donnera au bon moment, au moment favorable, et une réponse qui ne suivit d'aucun chagrin, te le donnera. David est déclaré. On ne le connaît pas, mais ils arrivent, ils sortent de la guerre. Je ne sais pas si ce sont des oiseaux. Qui sont allés dans les quartiers, dans la, c'est pas aller déjà parler aux femmes prophétesses qui commencent à chanter. David a tué ses 10 000 et cantique rapide, une chorale terrible de composition.
Bam! David a tué ses 10 000, Saül a tué 1 000.
C'est-à-dire, Saül, c'est la dîme de David.
Oh! On dit, mais comment ça, je deviens la dîme de David? Mais victoire! Sois réduit à un dixième de la victoire de David. Il a frappé une fois.
Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas frapper une fois. Et tout ce qui a été caché va être révélé. Tout ce qu'on a méprisé, tout ce qu'on a caché dans les tiroirs va sortir. Je prie et je prie et je prie que tes victoires qu'on a cachées dans les tiroirs vont sortir.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui devaient déjà être promus, mais on a essayé de retenir cette promotion. On a essayé de retenir tes victoires. On a essayé de cacher que toi tu as sauvé quelqu'un. Je prie, mon Dieu, qu'aujourd'hui, il t'accorde la grâce de la récupération dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand David voit ses parcours, Il dit, je ne peux pas être ingrat à Dieu. Je vais construire pour toi. Et des fois, si tu te rappelles seulement de ce que Dieu t'a fait, tu l'adores. Si on dit, chacun prend 5 minutes, réfléchis sur tes origines. Tes origines. Tu peux même rentrer, aller chercher une offre. Pendant que je prêche, tu dis, je rentre. Je ne mérite pas de donner à Dieu ce qui est rentré sur la moto. Non. Toi, comme tu es là, est-ce que tu pouvais te marier? On peut même te rappeler dans ce moment. Toi-même, tu regardes, tu dis ça. Moi-même, j'ai honte. On peut te dire, est-ce que toi, tu mérites d'être à ce poste-là? Tu vois celui qui est au subalterne. Tu vois ceux avec qui vous avez étudié. Tu dis, eux méritent. Ça, je suis sûr. Est-ce que moi, je mérite d'être l'homme que vous devez écouter maintenant? Deux, je te donnerai, je construirai une maison pour toi. Et trois, nous avons vu le mystère de mérite. Il y a des choses que nous avons parce que nous avons fait quelque chose. Et il y a des choses que nous avons par la grâce de Dieu. Je conclue pendant 10 minutes en disant le quatrième mystère. Je parle du mystère de la source. Devenir une source. Quand nous construisons pour Dieu, il y a la capacité, la grâce, la possibilité de devenir une source. Là, nous allons lire Genèse chapitre 12, le premier verset jusqu'au troisième verset. Et vous pouvez continuer la lecture. Vous pouvez lire 1 Rois chapitre 8, 28 à 43. Et vous aurez l'idée de ce que nous sommes en train de dire. Vous pouvez même ajouter psaume 23. Mais là, dans Genèse chapitre 1, chapitre 12, Dieu est en train de parler à Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen.
Ici, Dieu est en train de commencer le projet du salut de l'humanité, et il sélectionne Abraham pour faire de lui le père
de la foi.
Il l'appelle, il dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va là où je t'indiquerai. Et quand tu seras dans cet endroit-là, primo, je vais te bénir. Secundo, je vais rendre ton nom grand. Tertio, je vais faire de toi une source. Être béni,
c'est la première dimension de la marche avec Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu te bénit, tu es à l'école maternelle.
Oh, j'ai un bon travail. Oh, je me suis marié. Oh, je construis. Oh, j'ai une voiture. Oh non, j'ai un jet privé.
Vous êtes à l'école primaire, à l'école maternelle.
Ceux-là que Dieu bénit, il les élève à la deuxième dimension. Il leur donne un nom. Parce que le nom, c'est une bénédiction. Il dit, j'ai rendu ton nom grand. Vous pouvez avoir la chance sans avoir un nom. Vous pouvez avoir les diplômes sans avoir un nom. Vous pouvez avoir de biens sans avoir un nom. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails de cet enseignement, le nom. Le nom, c'est une puissance. Le nom a des signes et des miracles qui l'accompagnent. Il y a un mystère qui accompagne le nom. Voyez par exemple la situation de Noé. Noé est né à un moment où le monde était en train de chavirer. Et la Bible dit que son père, quand il a eu Noé, il le prend. Entre ses mains, il dit, Noé,
mon enfant, tu seras appelé Noé parce que tu consoleras, tu nous consoleras. Tu arrêteras la fatigue que nous avons eue de cette terre que l'Éternel a maudite. Genèse 5, 26 à 28.
Tu nous délivreras de la souffrance de la terre. Il dit, tu t'appelleras Noé.
C'est pourquoi ce n'est pas étrange quand Noé est capable de résister pendant que les fils de l'homme sont venus vers les fils de Dieu sont venus vers les fils de l'homme.
Et un niveau de péché, il y a un homme qui est resté intègre.
Pourquoi? Parce qu'il a eu un nom.
Je rendrai ton nom
grand.
Et la dernière dimension, il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Bien aimé, quand le Seigneur Seigneur vous engage à construire pour lui, il est en train de monter à la troisième dimension. Non seulement il va vous bénir, non seulement il va vous donner un nom générationnel, mais aussi il va faire de vous une source.
Vous devenez une source. C'est peu de choses d'être béni, mais c'est tout quand on devient une source. Alléluia. Écoutez ce que Jésus dit à la femme samaritaine. La femme samaritaine vient échanger avec Jésus.
Et à un moment donné de leur débat dans Jean chapitre 4, quand ils arrivent à un certain moment du débat, Jésus dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais demandé de l'eau à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vivante, de l'eau vive,
et tu n'aurais plus besoin de revenir ici. La femme dit, je crois que j'ai besoin de cette eau-là. C'est peu de choses que tu aies la capacité de payer les minervales de tes enfants. C'est peu de choses. Dieu veut que tu sois une machine de bénédiction. Quand quelqu'un vient vers le Seigneur pour être exaucé, il a un besoin, Dieu la voit, c'est toi.
C'est là que David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage, il me dirige vers les eaux paisibles, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu places devant moi une table à face de mes ennemis. Tu ouindules ma tête, qu'est-ce qui arrive?
L'onction véritable, quand il descend sur la vie d'un homme, cet homme est appelé ou est condamné à devenir une source. Quand ma coupe déborde, c'est-à-dire je dois salir la table.
Le débordement veut dire je suis moi-même rempli. Et les voisins commencent à recevoir ce qui déborde. Que ta grâce déborde dans le nom de Jésus. J'arrête ces songes qui ne te concernent que toi. Que cet esprit d'égoïsme, même là, tes rêves qui te récupère.
Je les charge au nom de Jésus. Que l'égoïsme qui te rattrape dans les rêves te lâche.
Et que tu commences à rêver, que tu fais du bien aux autres.
La volonté de Dieu, ce que nous devenions des sources.
Dis avec moi, source. Mon pasteur, le révérend Stone, nous a fait un bon séminaire. Il disait, c'est très malheureux d'être riche seul. Quand vous êtes riche seul, même ceux qui sont au village, oh non, oncle Ali Gonjwa, oh Fulani, Ali Kwa Mushamba, c'est pas Mpanga Kamwangukia, ou tout ça, il dit, tu es gêné, toi-même, tu dis, mais je ne peux plus même m'asseoir. Tu dois prier, dis que Seigneur, élève de riches dans ma famille. Et si tu as des possibilités, au lieu d'aider quelqu'un chaque jour, tu lui donnes un capital. Tu commences à déborder. On a parti à Ouyou, on a indiqué à Ouyou. Allez! Et ils sont tous riches. Dis avec moi, je suis une source.
Et cette capacité, cette grâce est donnée aussi et surtout aux gens qui construisent pour Dieu.
C'est un mystère.
Abraham devient une source de bénédiction pour les nations. Mais la question est celle-ci. Quand est-ce qu'Abraham devient une source? La première fois qu'Abraham devient une source, c'est le jour dans Genèse 22, Dieu lui dit, va-t'en, va à la montagne de Moritia, va avec ton enfant, celui que tu aimes, Isaac,
va l'offrir là-bas.
Et il a amené Isaac sur le mont Moritia. Il a élevé l'autel. Même quand ils étaient en train de monter, Isaac pose la question à son père parce qu'il connaissait la coutume des offrandes.
Il dit, papa, je vois le feu, je vois le bois. Je ne vois pas le sacrifice. Et pour la première fois, Abraham va prophétiser. Il dit, l'Éternel, c'est pour voir là.
Il était en train de dire que Dieu, il est sa propre provision. Il était en train de dire, il arrivera un temps où Dieu deviendra un sacrifice. Dieu deviendra une offrande.
Il dit, Dieu se pourvoira. Dieu se donnera lui-même comme sacrifice. Mais vous voyez, c'était pour gérer l'attention de l'enfant. Parce que lui savait que le petit, c'est fini. Il l'amène sur l'autel. Il arrange l'autel et je ne sais pas comment il prend l'enfant. Je crois qu'il a eu déjà le temps de prier pour son propre cœur. Et il change de mood. Prend l'enfant. Kamba. Pour sérieux. Kamba. Sous ma petite. La femme regarde là, elle est vieille. Le vieux élève l'épée, prêt à tuer.
Et l'apôtre, disons, Hébreu nous dit qu'il l'a retrouvé sous forme de résurrection parce que dans son cœur, il avait déjà tué.
Et quand il soulève l'épée, Dieu dit, arrête Abraham, je vois que tu m'aimes. Ce n'était pas seulement un acte de texte, de test. C'est vrai, sur le plan évangélique, on voit Abraham qui obéit à Dieu en acceptant ce que Dieu lui demande jusqu'à offrir ce qu'il avait de meilleur. Mais cet acte, au-delà d'être un acte d'amour pour Dieu, c'était un acte prophétique. Pourquoi? Parce que Abraham, qui est le père de la foi, et à ce moment-là, celui, l'image de Dieu le Père, il est en train d'accomplir Jean 3,16, là où Dieu lui-même va monter à la montagne de Golgotha avec son fils, en disant Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils bien-aimé. Le jour du baptême de Jésus, Dieu a dit ceci, la Bible dit, le ciel s'est ouvert, et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est comme Abraham qui a Isaac, son fils unique, le bien-aimé. Quand il l'a sacrifié, il était en train de prophétiser sur l'acte que Dieu fera. Quand il sera en train de sacrifier son propre fils. Mais Dieu qui lui dira, arrête, j'ai vu ton amour, Dieu. Qui va lui dire ça? Dieu, il a poignardé le fils. C'est pourquoi l'apôtre dit que Dieu a tué Christ. Dieu a jugé Christ sur la croix. Il a exercé la justice sur Jésus. Et Jésus est mort par la justice de Dieu. Parce que Abraham, il a prophétisé sur ça. Quand il a fait cet autel-là, c'était déjà la prédiction sur l'autel de Golgotha. Et nous avons dit la fois passée que quand Abraham a fait ceci, il n'a pas vu, mais au plan spirituel, cette offrande d'Abraham était le rachat de la montagne. Dieu a acheté cette montagne au travers de l'offrande d'Abraham. Je vous ai dit que les offrandes nous donnent la possession. Vous pouvez acheter des territoires par les offrandes. Vous pouvez acheter des choses par les offrandes. Abraham a acheté Cana par les autels. Et il a acheté le mont Moridia par les autels. Quand il a élevé cet autel, c'est pourquoi plus tard, même ceux qui n'ont pas vu Abraham, Salomon a construit le temple là où Abraham voulait tuer Isaac. Pensez-vous que c'est un acte hasardeux? C'est un acte qui n'a pas de liaison. Abraham, ou disons, Abraham, quand il faisait ça, il ne savait pas qu'il était en train de préparer l'endroit pour le temple, qu'il était en train de sanctifier la place pour le temple. Et Salomon, quand il vient accomplir cet acte-là, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais au plan spirituel, il y a des actes qui n'ont pas besoin de notre compréhension. Dès que l'acte est posé, il y a des conséquences. C'est là qu'on a construit l'État. Et Dieu dit, tu seras une source de bénédiction pour les nations. C'est en parlant de Jésus qui devait naître justement dans la maison d'Abraham, la progéniture d'Abraham. Et la même chose, Dieu le dit à David, il dit, je vais faire de toi une source de bénédiction. Tu ne manqueras pas de successeurs. Comment? Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand il dit, ton trône ne manquera pas de successeurs. Savez-vous que David, à qui Dieu parle, c'est un homme qui a été un homme solution. Quand Israël était en train de trembler devant Goliath, Dieu a pourvu David. Savez-vous que pour chaque problème d'une nation, d'une famille, Dieu ne donne pas l'argent, Dieu donne un homme. Si vous avez un problème dans la famille, ne demandez pas l'argent, parce que l'argent peut tomber dans les mauvaises mains. Notre nation, tout ce que nous vivons a béni partout. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'homme. Il ne faut pas aller vers Dieu, Seigneur, donne-nous la sécurité, donne-nous un homme. La Bible dit, Dieu a écouté la prière d'Israël. Il dit, je vis l'humiliation de mon peuple, je vis la souffrance de mon peuple, c'est pourquoi je leur ai donné Moïse. Quand Dieu bénit un peuple, il donne à ce peuple un leader, un vrai. Nos familles ont besoin d'un leader, nos églises de leaders, nos familles, nos entreprises, des leaders. Quand on a un homme choisi par Dieu, un homme consciencieux, un homme vrai, il y a l'environnement qui donne toute sa provision à l'homme. C'est comme ça que David devient une source de bénédiction, parce qu'il devient une source de roi. Il va mettre au monde des leaders, c'est-à-dire des hommes solutions, pas des hommes problèmes. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons des hommes sources, sources de solutions, sources de vie abondante. Que nous ne soyons pas des receveurs, que les gens viennent puiser la vie en vous. Que les gens viennent puiser la richesse à vous. C'est peu de choses d'avoir de bien. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons des machines pour fabriquer le bien. Alléluia. Et cette grâce, nous l'avons par la construction de la maison de Dieu. Ceux qui construisent la maison du Seigneur, ceux qui construisent les temples de Dieu, ont la grâce de devenir des hommes sources. Et je prie qu'aujourd'hui, Dieu fasse de quelqu'un une source. Je prie qu'aujourd'hui, Dieu commence à t'élever jusqu'à ce que tu deviennes une source.